Ici Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
Journée de la radio, 7h, 18h. Faites-vous entendre.
Opinion,
débat, engagement à la radio. Sur Transistor.
C'est ainsi que le 18 janvier, lors d'un point de presse à Metz, vous m'avez traité de semi-dément.
Ça vous laisse une bonne moitié.
Journée de la radio.
Nous le disons haut et clair, à voix puissante. Parce que comme disait Nietzsche, les vérités tuent, celles que l'on tait deviennent vénéneuses. Merci à vous tous.
Faites-vous entendre.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices, qui nous écoutez en cantor ou chez vous devant votre tasse de café ou au fin fond de votre lit. Bonjour Maëlys, qui est à mes côtés en ce début de matinée.
Bonjour Mathias.
Bienvenue à la 6e édition de la Journée de la Radio qui commence dès maintenant pour 11 heures de direct consacrée cette année au rapport entre la politique au sens large et la radio. Une journée pour se faire entendre, pour débattre, pour s'engager, pour s'informer. Toute l'équipe de Transistor est à pied d'œuvre pour assurer cet événement exceptionnel.
Et au programme de ce matin, nous recevrons à 8h Les Salopettes, association féministe de l'ENS, avec qui nous discuterons du sexisme à l'ENS, et à 8h30, Nathalie Perrin-Gibert, maire du 1er arrondissement de Lyon, pour une interview politique. Vous retrouverez ensuite Clément et sa chronique ferroviaire à 9h, puis Conflit, l'émission de géopolitique qui vous parlera de pop culture à 9h15. L'équipe de Blablamix nous rejoindra à 9h30 pour un featuring exceptionnel dans Irradié. À 10h, direction le théâtre avec un incontournable de Transistor en spectateur. Et nous terminerons cette matinée avec la première table ronde intitulée Radio en campagne avec Olivier Minot et Vincent Martigny.
Mais tout de suite, c'est la matinale de 7h à 9h et pour vous réveiller en douceur, rien de mieux qu'un petit déjeuner qui vous est présenté par Marie. Bonjour Marie.
Bonjour.
Alors, bonjour Mathias, bonjour Maëlys et bonjour à tous nos auditeurs. Ou à notre auditeur, à cette heure-ci, ne soyons peut-être pas trop optimistes. Bon, bref, c'est donc à moi qu'a été confiée la lourde tâche d'inaugurer cette journée avec un petit déjeuner. Alors, ma foi, ma crainte s'est bien vite dissipée lorsque je me suis attardée sur l'outil YouTube et, croyez-le ou non, ce ne sont pas moins de 280 000 résultats qui ressortent de la requête « petit déjeuner ». Alors, ne vous inquiétez pas, Mathias, Maëlys, j'ai bien conscience que cette chronique est courte, donc bien sûr, nous n'allons pas écouter les résultats, mais seulement un petit morceau choisi.
Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo spéciale petit déjeuner, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des matins où j'avais pas faim. Il y avait des matins où j'avais un peu faim, c'était plus la gourmandise. Et il y avait des matins où j'avais très faim. Et donc en fonction de ces matins-là, j'avais envie de vous proposer mes petits déjeuners préférés, ce que je mange en fonction de cette situation-là.
L'idéal, le ratio, c'est 80% de légumes pour 20% de fruits. Et ici, on a pas mal nos ingrédients préférés pour un jus. Donc on va commencer tout de suite.
Si vous avez du vieux pain à la maison, surtout ne le jetez pas, car ça peut toujours servir pour...
Plongez un épais morceau de jambon de Bayonne dans de l'eau froide. Ajoutez le piment d'Espelette.
Ensuite, une banane.
Les manchons d'oie confits et les gésiers confits. Ajoutez l'ail haché finement.
Alors moi je mets de l'avoine dessus, une boisson à base d'avoine. Vous pouvez mettre du lait de soja, du lait écrémé, de l'eau, ce que vous préférez.
On met tout ça dans le blender et on mixe le tout. Donc là c'est vrai que voilà, ça m'a permis d'obtenir quelque chose de très fluide.
Super bon. Moi ça me fait 2 jours, je vais prendre la moitié puis je garde le reste au frigo. Tandis que pour Chéri, il va boire ça d'une traite. Oui, monsieur, portion d'homme.
Bon, bon, que dire après ça? Alors, pour être totalement transparente, chers auditeurs, je dois vous avouer que j'ai testé. Bon, je crois bien que le problème venait avant tout du mélange lait de soja et gésier confit. Bon, je trouvais ça un peu douteux aussi. Bon, restez quand même avec nous, hein. Alors, puisqu'aujourd'hui, sur Transistor, s'il s'agit de donner son opinion, moi, bien sûr, je suis d'accord. Tout le monde fait ce qui lui plaît, comme dit la chanson, mais tout de même, il y a des limites à ne pas dépasser. Et il y a certains sujets sur lesquels il me semble difficile de ne pas avoir un minimum de rigueur. Alors, une longue journée nous attend tous dans ce théâtre, alors faites-moi plaisir, ne prenez pas les choses à la légère. Et comme dit le proverbe irlandais, les rires éclatent mieux lorsque la nourriture est bonne. Alors, puisqu'aujourd'hui, au-delà du stress, j'espère que l'on va surtout rire, je vous souhaite à tous un excellent petit déjeuner, où chacun puisse se faire entendre, thé ou café, pain au chocolat comme chocolatine, et en ce moment, on le voit dans nos débats politiques comme dans nos assiettes, pour s'entendre avec tout le monde, il faut n'être pas d'accord avec personne. Bref, mangez bien, où que vous soyez en France ou ailleurs, et surtout n'oubliez pas de rire de bon cœur à l'écoute de votre radio préférée. Bonne journée en pleine forme à l'écoute de Transistor.
Merci Marie pour nous avoir mis l'eau à la bouche. Maintenant, c'est la digestion potin. Place à Myriam et sa revue de presse décalée. Bonjour Myriam.
Bonjour.
La revue de presse, bonjour.
J'ai l'intime conviction que les élections présidentielles ont vocation à alimenter notre désir d'infos croustillantes. Car moi, je vous le dis, c'est dans la sphère politique que se trouvent les vrais people. Bon, il est toutefois vrai que la famille Kardashian, de manière quasi rituelle, se trouve toujours dans les colonnes de public ou pure people. Et même là, la politique n'est jamais loin. En effet, comme l'affirme pure people, Kendall Jenner s'est attiré les foudres des activistes pour les droits civiques. La sœur de Kim Kardashian a en effet gentiment exploité la Women's March et le mouvement Black Lives Matter, à l'occasion d'une pub pour Pepsi. Vous savez, Pepsi permet l'unité, la paix, tout ça, tout ça. Elle ne pouvait pas savoir que ça allait blesser tant de gens, notamment la fille de Martin Luther King, qui s'est ainsi exprimée sur Twitter. Si seulement papa connaissait le pouvoir de Pepsi. Si Pure People cite Bernice King, il compatit avec Kendall et tient à plaindre la star de télé-réalité qui se dit mortifiée. Paris Match s'inquiète également pour Brad Pitt, qu'on a vu amaigrir à l'occasion de l'avant-première du film The Lost City of Z. Le magazine analyse la situation. Le pauvre a vécu une année bien difficile. La séparation du couple mythique Brangelina l'aurait marqué au fer rouge. Bon, laissons ces âmes torturées tranquilles et revenons aux vrais people. Vous savez, les politiques. En tête d'affiche, toujours et encore Trump. Actu People partage les propos de Salma Hayek qui se dit contre la politique étrangère de Trump à l'égard des Mexicains. Car, révélation du jour, la plupart de ses concitoyens n'ont rien à voir avec la drogue. Et dans la famille Trump, je demande la fille. Ivanka Trump est vivement critiquée par Scarlett Johansson car, selon 20 minutes, elle agit de manière lâche et ne fait pas entendre sa voix, se cachant derrière son président de père. Chez les Trump, je demande également le couple Trump. Et surtout Melania, occupant nos esprits jour et nuit, selon voici. Le portrait officiel de la First Lady a été, l'heure est grave, retouché. Et voici de dire que cela n'a pas laissé les internautes de marbre. Le portrait semble faire un peu cheap pour le magazine et juge que Melania Trump semble sortir de l'effet de brume d'un feuilleton de fin de matinée. En même temps, les Américains n'avaient pas voté pour un candidat, mais pour un mélodrame. Selon voici, les internautes regrettent que Michelle Obama ne soit plus première dame. Eh bien, j'ai envie de dire, fallait y penser avant, parce qu'on sait tous que le portrait raté de Melania est ce qui arrivait de pire suite à l'élection de Trump. Niveau couple, les révélations sur la scène française sont tout aussi croustillantes, je vous le dis. Le couple Brigitte Macron est sous les feux des projecteurs de gala. Un article publié à l'occasion de la sortie du livre « Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait » revient sur leur relation fusionnelle. Gala titre ainsi « La mère d'Emmanuel Macron pensait que son fils sortait avec la fille de Brigitte Trogneux ». Information de la plus grande importance donc, tout comme celle de Fillon. Après des semaines à plaindre le sort de Pénélope qui s'est maintenant réfugiée chez sa sœur à cause des médias, VSD affirme que Fillon, alias Tartuffe, s'agace des rumeurs sur ses maîtresses et escort boys. VSD peint un Fillon sous les traits d'un martyr, le candidat des Républicains ferait face à une calomnie par jour. Tout ce qu'on dit sur lui est faux. Mais après tout, à l'ère de la post-vérité, teasing de la seconde table ronde de la journée, pourquoi pourrait-on ne pas croire qu'en réalité Fillon est le plus grand Mac de Paris? Et allons plus loin. Pourquoi ne pourrait-on pas croire que François Hollande est un autre personnage de Molière? À côté de Tartuffe, on aurait Don Juan. En tout cas, Closer s'inquiète et pose la question suivante. François Hollande et Julie Gayet ont-ils rompu ? Leurs proches s'interrogent. Sur cette question existentielle, eh bien, je vous dis au revoir. Je vous laisse profiter de la suite de la matinale de Transistor avec nos people, rien qu'à nous, les journalistes de Transistor.
Merci Myriam pour cette question existentielle évidemment, et tu n'es pas la seule à en avoir, car à Transistor, on prend tout le monde au sérieux, et même les enfants. C'est l'heure des petits micros, Anastasia répond à nos chères têtes blondes qui ont posé des questions sur notre répondeur. À toi Anastasia.
Salut. Oui, il paraît que les enfants ne dorment jamais et ils veulent vraiment se faire entendre. Et on a quelques questions ce matin.
Oui, bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 7 ans et je voulais savoir c'est quoi une centrale nucléaire.
Merci Thomas, c'est pas mal comme question à 7h du matin. Je vais essayer de faire de mon mieux. Bon, une centrale nucléaire, c'est une station qui nous permet d'avoir de l'énergie produite par un processus compliqué qui s'appelle la fission nucléaire. Chaque objet, et c'est juste pour rappel, est composé d'un atome, et chaque atome a un noyau. Quand on fait heurter les noyaux entre eux, ils produisent de l'énergie. Certains atomes en produisent beaucoup, vraiment beaucoup, ce qui nous permet de transformer cette énergie en électricité, par exemple. En France, 80% de l'énergie est produite dans les stations nucléaires. D'un côté, c'est pas mal parce que c'est quand même un moyen écolo de produire de l'énergie. Mais de l'autre côté, les matériaux qu'on utilise pour produire de l'énergie nucléaire sont radioactifs, c'est-à-dire qu'ils produisent beaucoup d'énergie pendant très longtemps, c'est-à-dire des milliers d'années. Cette énergie est très dangereuse et peut nuire aux êtres vivants. C'est pour cela qu'on cherche d'autres moyens pour produire de l'énergie, l'énergie solaire par exemple. Et on essaye de fermer les stations nucléaires. Et je pense qu'on a encore une question.
Bonjour, je m'appelle Nina. Vous voulez poser une question ? Ça sert à quoi de choisir un président si tous les candidats sont méchants ?
Ça c'est une question d'actualité. Et merci de le poser parce que moi je me pose cette question aussi parfois. En effet, on critique beaucoup les candidats. Mais je pense que c'est lié au fait qu'on veut choisir une bonne personne pour une telle responsabilité. Toujours dans le cadre de rappel, le président de la République, c'est une personne élue par le peuple pour servir à tous les Français. Il doit bien surveiller que personne n'attaque le pays et que les lois fonctionnent bien. Le président doit aussi présenter les intérêts de son peuple et prendre les décisions importantes qui concernent tous les citoyens. Mais le président ne peut pas faire tout, son pouvoir est limité par la Constitution. Finalement, pour qu'on vive dans un monde harmonieux, les présidents des pays différents doivent communiquer et prendre les décisions communes. C'est ainsi que le poste présidentiel, qui paraît bien attirant pour beaucoup de gens, est en réalité un travail extrêmement difficile et exigeant, à quoi les candidats doivent bien penser avant de postuler leur candidature.
Merci Anastasia. Mais il n'y a pas que les enfants qui ont des questions profondes, n'est-ce pas Mathias ? Et c'est tout de suite les petits vibros.
Que faut-il penser du téléphone rose, de l'échange de sexto et du cybersex ?
Est-ce que tu sais
te tromper ? Je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime.
Moi non plus.
Well, I fucking love you.
Les petits vibros, un nouveau concept sur Transistor. Envoyez-nous vos problèmes de cœur et de corps et nous vous répondrons du haut de nos qualités de fin psychologue. Et oui, éloignez les enfants du poste, les adultes aussi ont leurs questions et il faut croire que l'actualité politique s'introduit même jusque dans l'intimité des couples et questionne profondément leur rapport à la sexualité. Sans plus attendre, passons à la première question de Marie-Ségolène qui nous a appelé de Nice.
Oui, bonjour, je m'appelle Marie-Ségolène et depuis que mon mari a décidé de voter Marine Le Pen, il jouit en criant « Jeanne, au secours !» mais littéralement. Comment dois-je interpréter son désir pour moi, s'il vous plaît ?
Bonjour Marie-Ségolène, j'entends parfaitement votre situation et comprends qu'elle est délicate. Il me semble qu'en appelant Jeanne d'Arc à s'introduire dans votre lit conjugal, votre mari exprime le souhait de vous voir prendre le pouvoir. Je suppose que sa relation avec sa mère doit être conflictuelle. Je vois même une mère castratrice, puissante, qui ne lui a jamais laissé l'occasion d'exprimer sa virilité, qu'il transfère désormais dans Marine Le Pen. Il attend de vous que vous reconduisiez ce schéma de domination. Il manifeste en effet l'envie d'une femme forte qui n'a pas peur de ses convictions et qui peut, le cas échéant, se montrer ferme. Marie Ségolène, n'ayez pas peur de prendre le dessus dans vos ébats maritaux. Faites-lui comprendre que vous êtes ici chez vous et que vous ne vous laisserez pas remplacer par une obsession extra-conjugale. Faites rejaillir la flamme de votre ardeur en lui montrant à la fois que vous lui êtes dévouée, mais que vous êtes prête à bouter Marine hors de votre foyer. Une panoplie de jeux érotiques est à votre disposition. Menottes, baillons, fouets en tout genre. Je serais même prêt à parier que votre mari rêve discrètement d'essayer la stimulation prostatique. Et s'il est réticent, procurez-vous un plug anal à l'effigie du Front National ou de Marine Le Pen. Vous pouvez aussi vous déguiser en figure d'autorité afin de provoquer en lui ce sentiment complexe qui mêle pulsion et répulsion. Au choix, policière, militaire, Angela Merkel, Christine Lagarde. Pour éveiller son désir, faites-lui regarder un reportage sur les migrants ou un documentaire sur la Banque Centrale Européenne. Sa détermination viriliste n'en sera que redoublée et vous pourrez à ce moment-là en faire votre objet sexuel. Et si cela ne marche toujours pas, si votre mari ne parvient pas à s'intégrer, reconduisez-le à la frontière. Et c'est maintenant le tour d'Éric qui nous appelle de Saint-Étienne.
Oui, salut, je m'appelle Éric, je suis syndicaliste, enfin, je fais partie du mouvement anarcho-libertaire depuis mes 15 ans. Et là, depuis quelques semaines, depuis que j'ai arraché sa chemise lors d'un mouvement social, je rêve toutes les nuits que je me fais dominer par mon patron qui me fouette avec le programme d'Emmanuel Macron. Et enfin, le pire, c'est que j'aime ça, quoi. Alors j'aimerais bien que vous m'aidiez, s'il vous plaît.
Merci Eric. Tout d'abord, merci pour votre question qui a le mérite de mettre en lumière un phénomène trop souvent occulté par les médias, la tension érotique des luttes sociales et la sublimation permise par les situations de domination hiérarchique dans l'espace professionnel. Oui, la chemise arrachée, c'est un grand classique. La peau qui se dévoile et les tissus lacérés. Le patron, objet de désir, espéré, envié, convoité. Et le patron supérieur hiérarchique, inaccessible, dominateur, celui qui paye, celui qui prive, celui qui frustre et que l'on souhaite violenter. Votre cas est loin d'être isolé, Eric, mais ne vous inquiétez pas, vous évoluez, vous changez, vous grandissez. Avoir été dans la mouvance anarcho-libertaire n'est en rien une fatalité, rassurez-vous. Anarcho-libertaire, pardon. Le programme d'Emmanuel Macron est bien évidemment un substitut phallique dans votre rêve et vous projetez certainement une angoisse de la castration du fait d'un Oedipe mal résolu dans votre enfance qui vous a précipité dans les bras d'utopie marxiste-léniniste infantile. Pas grand-chose à faire donc, sinon que de comprendre, d'accepter, de sublimer vos fantasmes, de céder à de petits gestes de micro-frustration en lien avec la figure de votre patron qui vous procureront néanmoins une grande satisfaction. Pourquoi ne pas vous porter volontaire pour faire des heures supplémentaires gratuitement ? Offrez-lui vos RTT ou même faites du bénévolat la nuit. Aidez-le à déménager et proposez-lui de lui apporter le café le matin, par exemple. Demandez-lui de sanctionner votre activité syndicale, d'inventer un motif de faute professionnelle grave pour qu'il puisse vous licencier à tout moment. Pourquoi pas un blâme ou une rétrogradation en punition ? Préférez des CDD renouvelés au jour le jour plutôt que la routine morne d'un CDI, une petite pincée de précarité, et c'est l'excitation de l'imprévu. Votre vie va changer, Eric. Ayez confiance. Ne luttez plus contre vos fantasmes. Le programme d'Emmanuel Macron vous fait envie. Laissez parler vos désirs, cessez de vous censurer. Visiblement, votre inconscient a déjà fait son choix dans cette élection présidentielle. Votre libido vous appelle, votre libido vous fait signe, et elle vous guide, elle vous tend la main. Suivez-la, il est temps de se mettre en marche, Eric.
C'était les petits vibros sur Transistor, et j'espère que nous avons été de bons conseils. Après vous être occupé de votre jardin intime, occupez-vous maintenant de vos petits buissons. Et avec Clémence et la main verte. Bonjour Clémence.
Bonjour Mathias.
Prenez le temps de transformer un arbre en moment de détente.
Moi, mon potager, je sais où je le fais. Pour le vôtre, je vous conseille de bien choisir l'endroit.
Allons nous promener dans notre vaste jardin.
Oh.
Jardin des merveilles.
Je pense que je vais le dire à chaque journée de la radio, mais faire une chronique sur les plantes, c'est pas facile, surtout quand on n'y connaît rien, et qu'il est 7h du matin. Je voulais faire une blague sur le thème de la journée de la radio et faites-vous entendre, mais je me suis rendu compte que je l'avais déjà faite l'an dernier, et que de toute façon, les plantes ne parlent toujours pas, à part les quelques belles plantes qui sont autour de moi ce matin. Ah, non, c'est peut-être un peu ambitieux de parler de belles plantes à cette heure-ci. Du coup, pour l'occasion, j'ai essayé de me renseigner un peu sur jardinpratique.fr. Mais ça n'a pas vraiment été efficace et ça m'a collé une mini crise d'angoisse. Le premier article sur lequel je suis tombée, cerise, deux points, prévenir la monolilose. Alors évidemment, je lis quelques mots-clés, pourriture, dépérissement. Je me demande quel genre de maladie peut bien être la monolilose et je finis sur internet à me trouver tous les symptômes. Avant de découvrir qu'en fait, la monolilose, c'est une maladie qui touche les cerises et pas les gens qui mangent des cerises. Tant mieux pour nous et pour nos étés. Bref, je reviens sur Jardin Pratique. Un nouvel article m'interpelle. Fraisier, 4 mesures à prendre. Ça rigole pas dans le jardin. Le titre de l'article nous laisse entendre à quel point le monde du jardin peut être révolté contre les fraisiers. Je ne sais pas ce que font les fraisiers, mais il y a l'air d'y avoir des réformes à mener et ils ne vont pas passer un mois tranquille, croyez-moi. Au programme, restructuration du jardin, renouvellement de la fraiserie par tiers, et j'en passe. Bref, c'est bien beau tout ça, mais je n'ai toujours pas de sujet de chronique. Je bataille. Je vais chercher dans la catégorie astuces du site. Tout le monde aime bien les astuces. Et là, je tombe sur l'article le plus utile au monde. Comment faire une tresse d'ail? Je me dis que c'est une superbe idée, surtout quand je vois la tête de Mathias qui est vachement pâle ces derniers temps. D'aucuns diront que c'est la préparation de la journée de la radio qui le fatigue. Moi, je suis plus suspicieuse et je me dis qu'un collier d'ail, ça pourrait être pratique pour le garder à distance, au cas où. Et s'il s'avérait par hasard que Mathias n'était pas une sorte de vampire mystiquement repoussé par l'ail, je me dis qu'au moins, j'aurais juste à croquer dans le collier pour éviter qu'il ne me tombe dessus et ne me donne d'autres chroniques pourries à faire. Rien à perdre donc, et je me fais un plaisir de partager avec vous cette technique si... Oui, si vous aussi, vous avez envie de passer une bonne journée et de vous débarrasser de vos proches ennuyeux. Alors pour faire un collier d'ail, il suffit de récolter le départ des fans et de tresser les queues, soit les unes aux autres si vous êtes très doué, soit avec un fil si vous êtes nul. Je vous livre également en substance l'encadré Le Petit Plus visible sur le site. N'attendez pas que les queues soient trop sèches pour les tresser. Un peu vertes, on les noue mieux. Avec toutes ces infos, vous êtes rodés, vous allez passer une bonne journée et je vous en prie.
Merci Clémence pour ce billet horticole. Quittons maintenant la terre ferme pour aller du côté des astres et de leur influence sur nos vies. C'est bien sûr l'horoscope présenté par Anastasia. Bonjour Anastasia.
Bonjour Malice.
Dans mon horoscope, il y a des chauveurs. Dans mon horoscope, il y a des moches. Des très moches. Dans mon horoscope, amour, ça dépend. Travail, ça dépend. Ça dépend.
Pour aider certains d'entre nous à choisir le chemin dans la vie après le NS, Transistor a créé l'émission Il y a une vie après normale. Mais si vous, comme moi, faites plutôt confiance aux étoiles qu'aux humains, voici quelques parcours possibles guidés par nos amis célestes. Bélier, ne vous désespérez pas si vous avez commencé le nouveau diplôme de l'ENS cette année et vous ne réussissez pas à faire comme Descartes et suivre les cours de physique, philo, maths et lettres à la fois. En revanche, vous pouvez suivre le parcours de Casanova qui représente lui aussi le signe de Bélier. Certainement, dans la vie de Casanova, il y avait beaucoup plus de plaisir. Taureau, si la musique vous attirait toujours, si vous passez des heures dans votre salle de bain chantée à tue-tête, si vous avez une voix forte, une oreille musicale, ou pire, juste les oreilles, arrêtez de torturer vos voisins et optez pour la carrière d'une chanteuse-compositeur. Je dis tout ça parce que j'attends tellement qu'encore une Ella Fitzgerald ou un Tchaïkovski soit née. Gémeaux, les lettreux, surtout les filles, sous le signe des Gémeaux, vous êtes sous une belle étoile. En fait, vous n'avez même pas besoin de faire les études, il vous suffit juste d'écrire en best-seller le plus vite le mieux, et voilà, le succès de Françoise Sagan est garanti. Mais n'oubliez pas que les drogues ne sont pas légalisées en France. Cancer, pour vous, les étoiles prévoient le chemin artistique. N'hésitez pas à vous plonger dans l'art et de creuser le sens de ce monde, par écrit ou avec un pinceau. Cependant, si les vies de Franz Kafka et de Frida Kahlo vous paraissent trop déprimantes, notez que Bob l'éponge, lui aussi, est né sous le signe de cancer. Lion, si un jour il y aura un géant qui pour votre anniversaire, vous amènera avec son moto-volant en direction inconnue, après avoir transformé votre cousin en cochon, ne vous inquiétez pas, ce sont juste les étoiles qui vous proposent de vous convertir à la magie et de devenir le deuxième Harry Potter. Et oui, Harry Potter, il est né le 31 juillet. Vierge, si comme Louis XIV, vous considérez que Léonès, c'est vous, et non Rémi Cerda, il s'agira de toi plus tard parce que tu es Capricorne, vous êtes une personne bien ambitieuse. Cependant, pensez peut-être à faire moins d'adversaires pour pouvoir laisser un héritage au futur Normalien. Balance, les entrées des balances sont beaucoup trop variées, les étoiles sont perdues. Juste pour donner une idée, je vous cite quelques noms. Marion Cotillard, Alfred Nobel, Kim Kardashian, Eminem, Confucius, les frères Lumière, Vladimir Poutine, Bruno Mars et bien d'autres belles possibilités d'avant-vie, les balances. Scorpion, attention les scorpions, il paraît que vous êtes jeune mathématicien prometteur capable de faire des découvertes révolutionnaires. Mais soyez prudent et ne tombez pas dans le piège d'Évariste Galois qui s'est battu pour une jeune fille et est mort juste après avoir fait une découverte révolutionnant la conception des structures algébriques. Sagittaire, que ce soit Brejnev ou Miley Cyrus, les représentants de ce signe aiment bien les manipulations avec la langue. Eh bien les Sagittaires, vous avez une idée. Il reste à comprendre comment encore on peut rendre sa bouche plus célèbre que la personne même. Les Capricornes sont vraiment ambitieux. À savoir, Jésus-Christ, eh bien évidemment, il est né le 25 décembre, était Capricorne. Après, il y a aussi Gilles Deleuze, Jean Racine, Benjamin Franklin, Paul Anécry, enfin Mathias Ubiz et Rémi Cerda. Bref, les Capricornes, vous avez de quoi choisir. Verseau, si vous en avez marre de vos études, pourquoi ne pas partir en voyage, disons 80 jours pour faire un tour du monde pourrait vous suffire, Londres, Bombay, San Francisco. Mais si vous faites vos études à l'ENS, au mieux vous avez 80 secondes pour changer la salle entre les cours. Donc je vous laisse rêver et lire Jules Verne. Et Poissons, allez Poissons, vous êtes vraiment sous une belle étoile. Tous les représentants de ce signe sont intelligents, forts et extraordinaires. Tout le monde vous aime et apprécie énormément. La réussite professionnelle est garantie. Eh bien, en fait, je n'ai pas trouvé des personnes intéressantes pour ce signe et je vous encourage un peu les poissons.
Merci Anastasia. Et si jamais vous êtes toujours demandé ce qui se cachait derrière le 13 avril, à part bien sûr la journée de la radio, Solène vous donne la réponse dans son éphéméride.
Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Aujourd'hui, nous sommes le 13 avril et ce jour est placé sous les auspices de la nature renaissante, verdoyante. Bref, du jardinage, printemps oblige. Commençons d'abord par ne pas oublier les Ida que nous fêtons aujourd'hui. Selon un dictionnaire des prénoms, en 2017, les Ida ont un âge moyen de 90 ans. En matière de flore, il est vrai, les Ida sont plus proches du sapin que de la prime vert. Bon, autrement dit, les pissenlits, elles les mangeront bientôt par la racine. Néanmoins, le site L.fr nous dit ceci. S'il était un animal, Ida serait sûrement une petite abeille butinant, passant de fleur en fleur. Oui, merci L.fr. Être une espèce en voie de disparition dans les campagnes, à l'heure où l'écologie est en voie de disparition dans la campagne, c'est vraiment ballot. Mais qu'on nous rassure, le journal des femmes précise que les Ida, je cite, aspirent à une vie sereine qui sache faire la place au beau. Contrairement à Carla Bruni qui aspire à une vie de reine mais qui fait la place au blaireau. Jardinage toujours. On fête aujourd'hui les 61 ans de la loi Marthe Richard. Elle avait permis la fermeture des maisons closes en 1946. C'est ainsi que les prostituées sont passées des bordels au bois de Boulogne. Quel meilleur endroit qu'un bois pour cultiver son jardin secret, tondre son buisson et se faire brouter le gazon. Oui, chers auditeurs, aujourd'hui, c'est le printemps et mon humeur est bucolique. Et puisqu'on parle de nature, sachez que dans le calendrier révolutionnaire, le 13 avril, c'est la journée de la roquette. Alors non, pas les roquettes que Bachar envoie sur les Syriens, mais la salade, beaucoup plus inoffensive quant à elle. Encore que... avec la campagne présidentielle, des salades, on en est bombardé. On y a droit à tous les repas, avant et après le fromage, et même en hors d'œuvre. De là à dire qu'on nous prend pour des chèvres, il n'y a qu'un pas. Ceci dit, nous ne goûtons guère la plaisanterie. Alors, campagne encore. L'almanach nous dit que le dicton de ce jour est un proverbe japonais. Alors le voici. Il vaut mieux laver son vieux kimono que d'en emprunter un neuf. Je pense que François Fillon saura méditer cette sage parole. Lui qui se fait offrir ses kimonos et qui les lave uniquement en famille. Et puis bon, à quelqu'un qui ne sait pas mettre l'argent de côté, on rappelle l'adage suivant, qui en emprunte un œuf vole un bœuf. Quant à la version française de ce proverbe japonais, alors elle serait sans doute quelque chose approchant « c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes ». Et selon Brigitte Macron, c'est dans les vieilles pots qu'on fait les meilleures croupes. Pour finir, amis jardiniers, vous qui aimez vous prélasser dans le gazon, n'oubliez pas la dernière recommandation du jour. C'est le moment de semer la pelouse et de planter les courgettes.
Merci Solène. Et pour qu'on puisse se prélasser dans le gazon, encore faut-il que la météo soit clémente. Et c'est notre Monsieur Soleil qui nous en parle. Bonjour Pierre.
Bonjour à tous! Je ne sais pas vous, mais moi je pète la forme, je suis prêt à tout déchirer ce matin. Ah mais moi, on me demande de faire la météo, je me dis, putain c'est ma chance, ça veut dire que je suis un canon de beauté! Et après je me suis rendu compte que c'était la météo à la radio. Enfin, c'est toujours ça de prix, hein. C'est toujours mieux que d'éplucher les canards ou éditer un édito. Vous savez, quelque part, ça a toujours été mon rêve de présenter la météo. Vous imaginez le pouvoir du type? Parfois, les gens allument leur télé juste pour lui. Il suffit de dire « Oh là, attention, il risque de pleuvoir sur les côtes du Cotentin » et paf ! Pas un Normand qui sort sans son parapluie. Franchement, ça doit être magique. Comment le mec, il garde les pieds sur terre ? Je ne comprends pas. Alors, avant de passer aux choses sérieuses, je vous propose de nous interroger sur le fondement même de ce qui fait l'essence d'une météo. Sommes-nous véritablement face à la concrétisation d'un pouvoir absolu de l'homme qui est devenu, comme le voulait Descartes, maître et possesseur de la nature, ou ne sommes-nous que devant spectacle et illusion, comme nous promet si tendrement la télévision depuis bien des décennies ? Eh bien, je ne pense pas. Donc, je ne suis rien. Du coup, je ne sais plus où j'en suis. Alors, pour simplifier les choses, et parce que je vais passer ma journée enfermée dans une salle, un peu couverte certes, avec des risques de précipitation sur le pupitre devant Mathias, j'ai décidé de déclarer unilatéralement qu'il ferait beau partout en France, sauf en Normandie, et sur la ville de Bresson, parce que je pensais avoir inventé ce nom de toute pièce, et il s'avère que ça existe, la ville de Bresson, dans l'Isère. Du coup, je suis pas très content. Sur ce, bonne journée à vous, mes lapereaux des Andes néerlandaises, et profitez du soleil sur Transistor.
Merci Pierre, et c'est la fin de cette première demi-heure de la matinale, qui, je l'espère, vous a réveillé en douceur. Place maintenant à l'info, avec le journal présenté par Solène et Robin. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, l'actualité est chargée ce matin et commençons tout de suite par un rappel des titres. Campagne présidentielle d'abord, hier Jean-Luc Mélenchon a tenu un meeting à Lille. Le candidat du Front de Gauche a vu croître ses intentions de vote puisqu'elles atteignent désormais 18,5%. Alexis Corbière, son porte-parole, a appelé Benoît Hamon à se retirer en faveur de sa candidature. Dans le camp socialiste, c'est un refus, mais l'engouement marqué pour Jean-Luc Mélenchon inquiète les autres candidats. Il s'y était engagé, Bernard Cazeneuve reçoit aujourd'hui l'intersyndicale de Whirlpool. Le groupe américain avait annoncé en janvier dernier son intention de délocaliser ses activités en Pologne. Actualité sociale maintenant, la direction d'Air France appelle les syndicats à accepter le plan de restructuration et menace de licencier en cas de refus de la part des syndicats. Pendant ce temps, les gardiens des maisons d'arrêt réclament un rendez-vous avec l'administration pénitentiaire afin de dénoncer la surpopulation carcérale et les difficultés croissantes de leur travail. Après le blocage de Fleury-Mérogis, c'est au tour de la maison d'arrêt de Villepinte de manifester. La France à l'étranger porte également son lot de nouvelles. Un soldat français se serait rendu coupable d'abus sexuels en Centrafrique. Le ministère de la Défense a saisi le parquet de Paris. Ségolène Royal, enfin, ne sera donc pas la prochaine directrice du programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, l'agence de l'ONU implantée à New York. C'est un diplomate allemand, Achim Steiner, spécialiste des questions environnementales, qui est apparemment le favori. Il a été notamment directeur général du programme des Nations Unies pour l'environnement entre 2006 et 2014. Passons maintenant à l'actualité internationale.
Hier, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson était en voyage à Moscou pour rencontrer son homologue russe Sergueï Lavrov, dans un climat de tension grandissant entre la Russie et les États-Unis. Les deux pays ont annoncé vouloir surmonter leur faible niveau de confiance pour lutter implacablement contre le terrorisme. Mardi soir, la Cour suprême brésilienne a donné son feu vert à 76 enquêtes contre une centaine de personnalités, notamment plusieurs ministres, dont deux sont très proches du président brésilien Michel Temer. Ces accusations sont issues des confessions d'ex-cadres du géant du BTP Odebrecht, qui aurait été au cœur d'une vaste opération de trucage systématique des marchés publics brésiliens, détournant plus de 2 milliards de dollars de la compagnie pétrolière Petrobras. Enfin, Ramzan Kadyrov, le chef du gouvernement autocratique tchétchène, a répondu d'une façon pour le moins perturbante à la vague d'indignation internationale qui a succédé à la publication de rapports faisant état de la présence d'un camp de concentration anti-homosexuel en République tchétchène. Selon les mots mêmes de son porte-parole Alvi Karimov, « c'est impossible d'enfermer et de maltraiter des personnes qui n'existent tout simplement pas dans notre pays ». Voilà pour le rappel des titres. Passons maintenant à au focus.
Alors, un focus économique, puisque Air France a appelé les syndicats à accepter le plan de restructuration, comme on l'a dit, et ce sont 4000 emplois qui seraient menacés par ce plan. La compagnie affronte de nombreuses difficultés. Les vols long-courriers épargnés jusqu'ici permettaient de compenser le déficit enregistré par les vols moyens-courriers. Et en effet, ces vols sont confrontés désormais par la concurrence des compagnies low-cost, ainsi que les vols long-courriers qui sont maintenant affectés par la concurrence des compagnies asiatiques notamment. L'activité de ces lignes est ainsi de moins en moins rentable et Air France souhaite augmenter la productivité de ses salariés. Cela passe par une augmentation du temps de travail et les négociations qui s'annoncent houleuses sont prévues pour le 24 septembre prochain.
Merci à vous deux pour toutes ces informations. Nous continuons à nous réveiller avec vous, chers auditeurs, et vous prendrez bien un café avec nos éditorialistes.
Alors, avant les au revoir, on a juste le temps de prendre un café et l'addition.
Et nous ouvrons ce café avec l'édito international de Clément, qui aujourd'hui nous parlera de l'Inde. Bonjour Clément.
Bonjour Maëlys.
I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning.
Capitalistas por los capitalistas y para los capitalistas.
I say pride in the word. It's been I, Fiorina.
Aujourd'hui, en effet, je vous propose un voyage en Asie, en Inde, pour explorer un petit peu cet immense pays-continent. Et l'Inde, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un pays assez compliqué à aborder. Immense, immensément peuplé. Est-ce que vous pouvez me rappeler le chiffre de population de l'Inde ?
Un milliard de 100 millions,
à peu près. Bon. Donc très peuplé, en réalité composé de plein d'États différents, regroupés au sein de ce qu'on appelle l'Union indienne. Et c'est un pays assez mal connu, à part quelques clichés comme Bollywood, et difficile à appréhender parce que plein de paradoxes. Géant économique, ou en tout cas en train de le devenir, il monte, fait peur à ses voisins asiatiques. Et parce qu'il monte, c'est aussi un pays qui suffoque et qui étouffe littéralement.
Littéralement, tu veux dire que c'est un pays très pollué ?
Oui, imagine un peu le tableau. Un pays qui s'industrialise à vitesse grand V, mais qui est encore un pays en voie de développement, donc niveau normes et sécurité, le reste ne suit pas. Le pays, par exemple, est encore très dépendant du charbon pour la production de son électricité, ce qui engendre, associé à toutes les industries, au trafic automobile et j'en passe, une pollution atmosphérique pour le moins gigantesque. La situation est devenue particulièrement critique ces dernières années, puisque sur les 20 villes les plus polluées au monde, 10 sont en Inde, et l'OMS estime que cette pollution fait plus d'un million de victimes par an. Ce chiffre a cette année dépassé celui de la Chine, pays pourtant tristement connu pour ses immenses smogs urbains. La situation est particulièrement critique dans les très grandes villes. La porte-parole de Greenpeace Inde expliquait ainsi récemment que passer une journée à New Delhi équivalait à fumer entre 17 et 20 cigarettes.
Ah oui, quand même.
Et outre le nombre de victimes et de gens qui ont des problèmes respiratoires, eh bien toute cette pollution touche encore plus les gens qui ont peu de moyens, tout en dégradant bien fortement l'environnement. Par exemple, le sous-continent indien est une région qui pèse pour 70% de l'industrie du démantèlement de navires dans le monde, donc les navires envoyés à la casse. Parce que l'Inde propose des tarifs très intéressants. On démantèle ainsi souvent ces navires sur les plages, à l'air libre. Tu imagines, Mathias, l'état de ces plages, ainsi que l'état des ouvriers qui y officient. Alors, en Asie, la Chine offre aussi une grosse industrie du démantèlement, mais plus chère, car elle respecte des normes environnementales et de sécurité un peu plus sérieuses.
Donc on en revient toujours aux inégalités, finalement.
Oui, et on les trouve absolument partout, y compris là où on s'y attend le moins. On observe en Inde de plus en plus un racisme anti-africain. À Bombay ou à New Delhi, l'immigration africaine est importante. Plus de 10 000 étudiants traversent chaque année l'océan Indien. Mais fin mars, 4 Nigérians ont été lynchés près de New Delhi par une foule enragée parce qu'ils étaient à proximité d'un rassemblement en hommage à un étudiant indien mort suite à une overdose de drogue venue d'Afrique. Et venant à la suite d'autres attaques à caractère raciste, ce drame a provoqué une importante crise diplomatique. Il y a 10 jours, 44 ambassadeurs africains ont demandé l'ouverture d'une enquête internationale et ils envisagent aussi de saisir le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et le gouvernement indien, lui, face à ça, fait l'autruche, refusant de voir le caractère raciste de toutes ces attaques et agressions. La ministre des Affaires étrangères indienne, Sushma Swaraj, hors d'elle après cette initiative des diplomates africains, a pu déclarer que ce lynchage, je cite, « ne présentait aucun caractère raciste, jusqu'à preuve du contraire ».
Oui, effectivement, c'est ce qui s'appelle faire l'autruche, et bien profondément. Et puisqu'on parle d'inégalité au niveau économique, c'est toujours aussi flagrant ?
Oui, et même peut-être encore plus depuis quelques mois, puisqu'il y a peu, le gouvernement a procédé à une gigantesque démonétisation sur plusieurs catégories de billets de banque pour lutter contre la fraude et la fausse monnaie. Le problème, c'est que cette réforme a été brutale, et pour prendre de court les fraudeurs, et les nouveaux billets ont tardé à arriver, ce qui a complètement pris de court et donc pris en otage toutes les couches populaires de la population, même les classes moyennes. Mais pour en parler, il faudrait un autre billet, et je vous rends l'antenne.
Merci Clément pour ce focus sur l'Inde et on sent le géographe en toi. Tout de suite, c'est l'heure de l'écho avec Robin, notre économiste en chef. Bonjour Robin.
Bonjour Mathias. Alors comme d'habitude, je commence avec un chiffre. Alors attention, il est un peu compliqué celui-là. Une augmentation de 10% du nombre d'employés immigrés dans une entreprise française augmenterait en moyenne le salaire, oui le salaire des employés déjà présents avant eux d'environ 5 points de pourcentage. There is no alternative.
Quel est vraiment le problème?
Il fasse des choix économiques, mais aussi un problème de pauvre.
Depuis longtemps, les économistes, et les politiques aussi d'ailleurs, s'intéressent aux effets de l'immigration sur l'économie. Traditionnellement, on s'intéresse plutôt à des effets généraux. Le renouvellement démographique, la consommation et surtout, pour les politiques, le chômage. En économie, on parle des effets sur le marché du travail et ces effets sont doubles, a priori, puisqu'on peut avoir une augmentation du nombre de personnes qui veulent travailler, c'est ce qu'on appelle l'offre de travail, qui peut augmenter éventuellement le nombre de personnes qui ne trouvent pas de travail, les chômeurs, mais on trouve aussi cette idée que les marchés du travail des nationaux et des migrants sont segmentés, c'est-à-dire qu'il s'agit de deux marchés du travail différents, et donc ils sont relativement autonomes. C'est un débat assez compliqué et j'ai pas du tout envie de vous en parler. Moi aujourd'hui, je parle d'immigration, mais je ne parle pas de chômage.
Mais rassure-nous, tu vas quand même parler un peu d'économie.
Oui, oui, bien sûr. Mais les effets de l'immigration sur l'économie ne se limitent pas au chômage. En fait, depuis quelques années, on assiste à la publication d'une diversité de travaux en économie qui cherchent à étudier l'impact de l'immigration non plus sur le marché du travail, mais sur le comportement des entreprises, une fois les migrants embauchés. Donc l'idée de base est simple, on se demande si ça change quelque chose d'employer plus de personnes ayant immigré ou pas.
Et donc ça change quelque chose ou pas in fine ?
Eh bien, la plupart des travaux qui ont été menés jusqu'ici montrent que l'emploi de migrants aurait un effet positif sur la productivité du pays. Et quand on parle de productivité pour un pays comme la France, on s'intéresse à la productivité moyenne des entreprises qui y résident. Les migrants augmenteraient la productivité française par plusieurs canaux. D'abord, on remarque que les nationaux et les migrants sont souvent spécialisés dans des tâches différentes. Embaucher des migrants permettrait de mieux répartir le travail spécialisé pour le donner à celui qui est le plus qualifié pour eux. Et donc en fait, c'est un mécanisme qui marche dans deux sens. Si un migrant est plus qualifié pour prendre la place d'un national dans un certain poste, ça laisse aussi l'opportunité de réemployer ce national dans un autre poste ou dans une autre entreprise où lui-même sera plus efficace. L'autre canal principal, c'est tout simplement le constat que la plupart des migrants sont en fait très qualifiés en France. Et ça, ça s'explique en fait parce qu'on n'a pas besoin de le rappeler, la grande majorité de l'immigration est intra-européenne. Et donc les savoir-faire de ces migrants qualifiés augmentent de manière générale l'efficacité des entreprises. Mais en fait, jusqu'ici, cependant, les résultats qui ont été publiés valaient pour la productivité globale de l'économie française et ne concernent pas le comportement spécifique d'une entreprise particulière.
On pourrait donc penser que cette augmentation générale s'explique par la répartition des migrants dans les entreprises qui en ont besoin, mais qu'au niveau des entreprises, d'une entreprise particulière, en fait, embaucher plus de migrants n'a pas forcément les mêmes effets, quoi.
Oui, c'est une vraie question. Et ceux qui y répondent s'appellent Cristina Mitaritona, Gianluca Orefice et Giovanni Perry, excusez mon accent. Ils ont présenté leurs résultats, donc ces trois économistes qui ont présenté leurs résultats dans un working paper, donc paper, qui est un article en attente de publication et qui ne devrait pas tarder à être publié. Ils ont utilisé des chiffres concernant un grand nombre d'entreprises françaises entre 1995 et 2005 et les ont complétés par des données sur l'immigration et ça leur a permis de mesurer l'effet de l'immigration au niveau de l'entreprise.
Et alors, c'est quoi leurs résultats ?
Eh bien, c'est des résultats assez intéressants, j'ai l'impression, puisqu'on trouve d'abord que les effets observés au niveau global s'appliquent aux entreprises particulières. En effet, l'augmentation de l'offre de travail suite à 10% d'immigration en plus augmente de manière significative la productivité globale de l'entreprise d'environ 2,7 points. Et cette augmentation est encore plus forte pour les entreprises étant initialement peu productives ou ayant peu d'employés. En effet, pour les 50% d'entreprises les moins productives en France, l'effet de l'arrivée de migrants peut atteindre jusqu'à 4 points de pourcentage en plus sur leur productivité. Et pour les entreprises qui embauchent des migrants, cela peut aussi leur permettre d'augmenter leur part de marché.
Donc l'immigration, c'est bien pour les profits ?
Oui, mais pas seulement. L'augmentation sur la productivité et l'augmentation sur les parts de marché augmente la probabilité que l'entreprise survive, notamment si c'est une entreprise de petite taille. Et donc une augmentation du nombre de migrants permettrait de baisser le risque de faillite des entreprises d'environ 6,7 points de pourcentage, ce qui n'est pas rien. Et puis si les migrants rendent les entreprises contentes, ça va aussi les inciter à changer leur comportement dans le bon sens. Les auteurs remarquent que l'embauche de migrants booste l'investissement des entreprises et notamment les incite à acheter de nouvelles technologies. En bref, l'embauche des migrants tirerait toute l'entreprise vers le haut.
Mais qu'en est-il des travailleurs qui sont déjà là avant les migrants ? Est-ce que c'est positif pour eux aussi, finalement ?
C'est là où l'article me semble vraiment très intéressant, puisqu'il montre que, comme l'immigration est bonne pour l'entreprise, cela se traduit aussi par une augmentation des salaires pour les nationaux. C'est les résultats qu'ils trouvent, pour ceux qui étaient là avant. Donc les entreprises qui embauchent des migrants vendent plus, et notamment exportent plus, et ça se ressent aussi sur les salaires des nationaux. C'est le chiffre que je citais en introduction, notamment.
Donc, les travailleurs français ont intérêt à voir venir des migrants.
Oui, bon, faut faire un peu attention à ne pas surinterpréter cet article qui ne représente qu'une étude limitée, mais c'est des résultats qui vont plutôt dans le sens et qui nous invitent à réfléchir sur les effets de l'immigration sur l'économie. On a tendance parfois à voir, notamment dans ce contexte de campagne présidentielle, les travailleurs nationaux comme des ennemis de ceux qui viennent de l'immigration. Et on limite souvent cette réflexion à la question du chômage, alors qu'on voit ici que la question de l'immigration et de ses effets sur l'économie est bien plus complexe, avec des arbitrages peut-être à faire entre des risques de chômage et des effets bénéfiques sur la productivité des entreprises. Donc je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a un avis là-dessus ? On va peut-être pas...
Je pense qu'il y a des effets contradictoires dans les deux sens. Et en tout cas, cet article est intéressant et remue un peu les pendules à l'heure en cette période de campagne électorale.
Voilà, donc je vais laisser cette question ouverte et j'invite les auditeurs à se la poser eux-mêmes et à aller consulter cette étude qu'on peut trouver sur le site voxeu.org.
Merci Robin pour cet édito salutaire en ces temps de campagne électorale, qui pousse parfois à la caricature en tout cas. Et en parlant de campagne électorale, Mathias n'est jamais loin et c'est lui qui se charge de l'édito politique aujourd'hui. À toi Mathias.
Française, français. Le débat d'aujourd'hui portera sur la politique. La politique, comment, pourquoi et quand.
Moi, président de la République, au revoir.
Et oui, Maëlys, je ne suis jamais bien loin quand il s'agit de parler politique. Et aujourd'hui, j'aimerais, une fois n'est pas coutume, revenir sur les récentes déclarations de Marine Le Pen. C'était dans le grand jury de RTL dimanche soir.
Je suis un passionné aussi par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Je me pose un certain nombre de questions et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Mais vous mettez en doute... C'est un point de détail.
Non, mais est-ce que
6
c'est...
6 millions de morts.
Est-ce que vous affirmez... Non, pardon.
Je l'ai compris, mais...
Non, mais 6 millions de morts, comment c'est...
Juifs. Oui. Dans la Deuxième Guerre mondiale, vous considérez que c'est un point de détail?
Non, c'est la question qui a été posée, c'est de savoir comment ces gens ont été tués ou non, n'est-ce pas?
Non, c'était pas un point de détail, quand même.
Si, c'est un point de détail, je veux dire de la guerre, oui. Enfin, écoutez, est-ce que c'est... Voulez-vous me dire que c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire? C'est une obligation morale. Je dis qu'il y a des historiens qui débattent de ces questions.
Il y a une immense majorité d'historiens qui l'ont dit éprouvé et quelques autres qui...
Non, mais vous-même, Monsieur Le Pen, est-ce que vous considérez qu'il y a eu un génocide de juifs?
Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de centaines de milliers, peut-être des millions de morts juifs et aussi de gens qui n'étaient pas juifs, n'est-ce pas?
Je crois qu'il y a eu un problème avec la régie, parce qu'on s'est trompé d'expression sonore, c'était Jean-Marie Le Pen et pas Marine Le Pen. Est-ce qu'on pourrait avoir Marine cette fois?
Je pense que la France n'est pas responsable du Vel'd'Hiv. Voilà. Je pense que de manière générale, plus généralement d'ailleurs, s'il y a des responsables, c'est ceux qui étaient au pouvoir à l'époque. Hein. C'est pas la France.
Mais c'est l'État français?
La France a été malmenée dans les esprits depuis des années. En réalité, on a appris à nos enfants qu'ils avaient toutes les raisons de la critiquer, de n'en voir que peut-être les aspects historiques les plus sombres. Donc je veux qu'ils soient à nouveau fiers d'être français. Parce que je pense que ce lien d'amour qui existe entre les Français et la France, c'est un lien qui est fondamental, ce lien de confiance aussi entre les Français et la France. Encore faut-il que la France leur rende et ne donne pas non plus le sentiment, comme l'ont fait nos dirigeants politiques pendant des années, de toujours mettre en place une politique qui vise à avantager les autres plutôt que les nôtres.
Bon, vous l'aurez compris, la régie ne s'est absolument pas trompée, elle n'a rien à se reprocher, elle fait un travail formidable depuis près d'une heure ce matin. Si j'ai rapproché ces deux déclarations, c'est qu'elles sont étonnamment similaires, même émission, même chaîne de radio, même heure. Tel père, telle fille. Alors que le Front National cherche depuis quelques années à faire peau neuve, à se racheter une virginité, j'ai envie de dire, chasser le naturel, il revient au galop, et j'arrêterai les dictons. Pourquoi revenir sur la responsabilité de la France lors de la rafle du Vel'd'Hiv, 12 ans après le discours de Jacques Chirac? Marine Le Pen rassure sa base, le noyau dur du Front National, peut-être un peu trop refroidi par le positionnement gauchisant de la patronne d'extrême droite. Il serait quand même dommage de perdre les frontistes de souche qui peuvent lui préférer quelqu'un comme Henri de Lesquin. Marine Le Pen n'a jamais condamné les propos négationnistes de son père et elle les avait même soutenus à une époque. Car aucun où on l'aurait oublié, le Front National et sa présidente, même si le nom et le logo du parti ont miraculeusement disparu de toute la communication électorale, sont bel et bien d'extrême droite et d'extrême droite française. On dira ce qu'on veut sur le positionnement social du FN, il est bien d'extrême droite. Une extrême droite qui s'est toujours fondée dès la naissance de la Troisième République sur l'opposition entre la nation, la France et le régime politique, la République ou l'État français. Opposition légitimée par De Gaulle à la Libération. Opposition qui tente de faire croire qu'il y aurait une France éternelle, nécessaire, et une autre France, éphémère, contingente. À la base de ce nationalisme, c'est l'aveuglement volontaire et la bêtise face à l'histoire. Comment peut-on raisonnablement penser une nation indépendamment de la société qui la compose, de la structuration politique qu'elle se donne, des valeurs qu'elle porte ou défend? La France, ce n'est pas une idée, c'est un tout. On ne peut pas aller faire son marché dans l'histoire. La France s'incarne dans son histoire et dans l'histoire de ses institutions, la France des Mérovingiens, des Capétiens, des Bourbons, de Napoléon, de la République, etc. Ce n'est pas la même France, ce n'est pas la même représentation de l'appartenance patriotique. Faire place à la distance historique, c'est aussi prendre en charge le pays auquel on appartient comme un ensemble, avec ses aspects positifs comme négatifs. Dernière remarque, c'est aussi être aveugle sur le Front National lui-même. Un article de Slate du 10 avril signé par Nicolas Lebourg rappelait l'existence d'un certain Victor Barthélémy, homme politique passé du communisme au fascisme, bras droit de Doriot à la création du Parti Populaire Français en 1936. Victor Barthélémy faisait partie des auxiliaires de la police française lors de la rafle du Veldiv des 16 et 17 juillet 1942. Une centaine d'hommes du PPF, dont Barthélémy lui-même, qui était le numéro 2 de ce parti, ont participé à cette rafle. Et Victor Barthélémy sera ensuite un autre numéro 2 d'un autre parti, le Front National, de 1973 à 1976, après avoir œuvré à la reconstruction de l'extrême droite française après-guerre. Il n'y a pas deux histoires, l'histoire savante et l'histoire patriote, qu'on ferait apprendre aux enfants, d'autant plus s'ils viennent de banlieue, pour en faire de bons petits soldats qui ne se poseront absolument pas de questions. Marine Le Pen parle d'amour, je lui réponds, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, et ce n'est pas aimer la France que de méconnaître son histoire. On ne prouve rien dans l'aveuglement, et je lui propose un amour lucide, et j'invite les Français à ouvrir les yeux et les oreilles.
Les heures noires souillent à jamais notre histoire, et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français.
Merci Mathias pour cet édito tristement nécessaire. Je vous rappelle d'ailleurs que le numéro de l'IO, Les yeux ont des oreilles aujourd'hui, sera consacré à la lecture des grands débats présidentiels. Rendez-vous à 16h. Mais en attendant, on retrouve tout de suite Eva pour un avant-goût de littérature. Bonjour Eva.
Bonjour.
On danse Saturday Night Fever et je vois les mondains du palace, les parisiens qui dansent et qui vers 7h du matin disent alors tu viens avec nous, on va chez Roland Barthes.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Pour cette journée de la radio consacrée à l'engagement politique sur les ondes, je vous propose une chronique littéraire consacrée à l'engagement en littérature, à travers une parution récente, celle de Laetitia ou la fin des hommes d'Yvan Jablanca, aux éditions du Seuil. Mais avant toute chose, on peut se demander où en est l'engagement en littérature aujourd'hui, à l'heure des discours sur le sentiment d'une perte d'influence de la littérature dans nos sociétés. Le recrutement des élites politiques relègue en effet au second plan les parcours humanistes et littéraires d'autrefois. Et nous sommes apparemment entrés dans l'ère de l'expertise, tandis que la parole de l'écrivain perdrait de sa légitimité politique, au point de le contraindre au retrait pensif ou à la distance de l'atemporalité. Toutefois, nous pouvons penser que l'engagement pourrait revenir dans le paysage littéraire, mais d'une façon très différente de cet engagement sartrien, surplombant et partisan que nous connaissions. De fait, la littérature engagée semble aujourd'hui écrite dans l'inquiétude, le doute et le scrupule, et se fait moins engagement dogmatique que résistance pratique, intervention citoyenne. La littérature, tendue entre l'urgence de l'indignation et la patience de l'enquête, cherche ainsi une façon indépendante et insoumise d'intervenir dans le champ politique, au nom de valeurs qui dépassent l'inscription partisane et militante. C'est ce que nous prouve le roman de l'écrivain et historien Yvan Jablanca, Laetitia ou la fin des hommes, publié en août 2016 et gratifié du prix Médicis. Ce livre s'empare d'un fait divers qui s'est déroulé près de Pornic en 2011. Il raconte donc le destin de la jeune Laetitia Perret, 18 ans, enlevée, poignardée, étranglée et démembrée par son séducteur et agresseur Tony Mellon. Néanmoins, Jablanca pense surtout ce fait divers comme un fait social total, et s'en sert pour analyser et dénoncer la misère française, la vulnérabilité des enfants, les violences faites aux femmes, mais aussi le rôle des médias et les récupérations politiques de l'affaire, notamment par Nicolas Sarkozy, alors président de la République, qui en avait profité pour délégitimer le travail de la justice. Mais le plus intéressant reste la forme hybride de ce livre, au carrefour entre littérature et sciences sociales, à la fois roman, et c'est d'ailleurs sur ce genre-là qu'il a été primé, mais aussi essais, biographies et surtout enquêtes. C'est en effet à travers cette écriture journalistique qui colle à l'événement que l'engagement de ce livre transparaît le mieux, puisque l'enquête se saisit du crime ou du fait divers comme symptôme de dysfonctionnements sociaux ou de refoulement de la collectivité. Jablonka écrit « Je me suis dit que raconter la vie d'une fille du peuple, massacrée à l'âge de 18 ans, était un projet d'intérêt général, comme une mission de service public. » L'écrivain rend ainsi toute sa complexité sociopolitique à l'événement, en montrant bien que la littérature peut légitimement s'engager face à la défection actuelle des médias audiovisuels, qui, en voulant rendre visible le fait divers, le simplifie bien souvent à outrance. Merci pour votre écoute et bonne continuation sur Transistor.